une des manières d'aborder la lourde responsabilité des ingénieurs, c'est de regarder ce qui s'est passé quand quelque chose a déraillé. C'est-à-dire, très schématiquement, étudier des cas d'accident et essayer de comprendre où étaient les différentes responsabilités qu'ont fait les ingénieurs, qu'est-ce qui a servi d'alerte en quelque sorte, pourquoi les alertes n'ont pas été suffisamment analysées, suffisamment acceptées par les responsables.
Mon propos est assez modeste, hein. Je vise juste à vous faire réfléchir un petit peu sur la responsabilité des ingénieurs et je prends l'angle des accidents qui est finalement un angle relativement pédagogique si vous acceptez de jouer le jeu avec moi, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment les différents acteurs ont eu une part de responsabilité dans cette affaire-là. J'ai éliminé les accidents du nucléaire parce que c'est peut-être pas trop le moment d'en parler. Donc Tchernobyl, j'en parlerai pas. Fukushima, il n'y a pas eu véritablement d'erreur d'ingénieur de fait. Il y a eu Three Mile Island aux États-Unis. Il y a eu des problèmes aussi en France que personne ne connaît bien, mais qu'on peut connaître. Et il y a des éventuels problèmes futurs qu'on essaye de régler en France grâce à une autorité de sûreté nucléaire qui s'appelle l'ASN. Et ben, ma foi, je suis assez fier d'être un des experts bénévoles de l'autorité de sûreté nucléaire. Et j'ai donc été amené à me prononcer sur les couvercles de cuves de Flamanville, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a des problèmes de ségrégation carbone. Et plus récemment, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé aux experts un avis sur les défauts des soudures des centrales nucléaires. Donc si on a du temps, et si ça vous intéresse, je reviendrai à la fin de mon exposé sur la manière dont je perçois ma mission dans l'intérêt du pays pour ce genre de choses, dans l'intérêt des populations, bien sûr. Donc les accidents dont on va parler sont des accidents anciens, parce que, par exemple, les accidents du 737 MAX sont des affaires qui ne sont pas jugées, pas complètement comprises. Mais en regardant ce que je vais raconter pour le Comet, vous allez voir que malheureusement, il y a un certain nombre d'erreurs qui se répètent. Je parlerai ensuite d'un accident qui est extrêmement connu et très utilisé pour beaucoup de formations d'ingénieurs. C'est l'accident de la navette spatiale Challenger. Par exemple, au Canada, on ne peut pas avoir sa licence professionnelle si on n'a pas fait une étude complète de ce cas-là et des dysfonctionnements qu'il y a pu avoir dans cette aventure de la navette spatiale Challenger. Et je finirai par l'accident de la navette spatiale Columbia, avec essentiellement comme objectif de vous montrer que ça n'est pas parce qu'une organisation a fait des grosses bêtises qui ont entraîné un accident sérieux que l'organisation en question a définitivement progressé et ne refera pas les mêmes types d'erreurs. Ce n'est pas le même type d'accident. Mais vous verrez qu'à la racine, les erreurs sont les mêmes, essentiellement des erreurs qu'on pourrait qualifier défaut d'écoute des responsables, défaut d'écoute des experts. Les responsables n'écoutent pas suffisamment les experts. Et ça sera l'occasion pour moi de vous citer une phrase très célèbre d'un professeur de physique que vous connaissez probablement tous, Richard Feynman. Cette phrase-là, il faudrait qu'on la grave sur un des murs de l'école, à mon avis. Donc je commence par vous raconter, alors vous voyez, c'est assez triste mon affaire, parce que je vous parle que de choses très malheureuses, avec pas mal de gens qui meurent, mais mon propos, c'est pas de vous faire pleurer, c'est de vous faire réfléchir à est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'agir autrement pour éviter ces pépins-là. L'accident du Comet, je commence par le contexte historique. Hein. Donc on est à la fin des années 40. Schématiquement, si on veut fixer une année, c'est l'année 43. En 1943, les dirigeants des pays occidentaux savaient qu'ils allaient gagner la guerre, donc ils commençaient à réfléchir à la guerre commerciale qui aurait lieu après. Et parmi les données de la guerre commerciale, il y a le problème du transport, et en particulier du transport des passagers. Donc, les gouvernements mettent en place des commissions de réflexion sur ce qu'il faut faire, et les compagnies aériennes ont souhaité disposer d'avions qui permettent de transporter rapidement un beaucoup plus grand nombre de passagers, rapidement et bien sûr de manière plutôt économique. Donc, compte tenu de l'expérience acquise pendant la guerre, les moteurs à réaction, comme on disait à l'époque, commencent à présenter un certain intérêt. Et donc, c'est ce qui est envisagé pour créer les nouveaux avions de transport de passagers. Par contre, si on fait voler un avion à réaction à basse altitude, le frottement de l'air coûte un kérosène considérable. Donc, il faut absolument monter très haut. Et en fait, l'objectif qui est visé, c'est d'atteindre 10 000 mètres, parce que là, les frottements de l'air sont suffisamment réduits et donc on consomme moins de kérosène. L'altitude de 10 000 mètres pose un problème parce qu'à l'extérieur, la pression est très faible, comme on va le voir. Ça veut dire que si on ne veut pas que les gens s'asphyxient dans l'avion, il faut gonfler l'avion. L'avion est donc, d'un point de vue mécanique, avant tout un ballon que l'on gonfle et que l'on dégonfle en fonction de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. La pression reste égale à la pression atmosphérique à l'intérieur et à l'extérieur, ça diminue. Ce point de vue que je viens de vous présenter sur ce qu'est un avion d'un point de vue mécanique n'était pas bien compris à l'époque. À l'époque, on comptait la durée de vie d'un avion en fonction du nombre d'heures de vol. Or, bien évidemment, si vous avez un ballon et que vous le gonflez et que vous le dégonflez, la durée de vie du ballon, c'est le nombre de fois où vous gonflez et vous dégonflez. C'est un problème dit de fatigue. Il fallait faire relativement léger pour emporter plus de kérosène et de passagers. Et là, il y a eu une autre, je dirais, audace. Les ingénieurs se sont tournés vers l'emploi d'alliages d'aluminium. Malheureusement, à l'époque, les alliages d'aluminium n'étaient pas très connus. Quand on fait des avions de guerre, on essaye d'avoir des engins qui résistent plus. Et donc, ce n'est pas ce type de matériau qui était utilisé, ni dans les avions de guerre, ni dans les avions civils pour transporter des personnels jusqu'alors. Donc, les Britanniques, en particulier sous l'impulsion de Churchill, qui était très, très moteur pour essayer de créer une industrie aéronautique britannique efficace, parce qu'ils voyaient tout l'intérêt pour l'équilibre extérieur de la Grande-Bretagne et pour son développement industriel. Les Britanniques ont été les plus rapides, en quelque sorte, à se lancer dans cette course à un nouveau type d'engin, plus efficace, plus léger, volant plus haut, avec des technologies très différentes. Et le 2 mai 1952, peu de temps envoyé après les... Grosso modo, c'est des choses qui se sont mises en place au niveau de la réflexion en 1943. Vous voyez que moins de 10 ans après, il y avait un engin assez révolutionnaire qui pouvait éventuellement être proposé aux différentes compagnies. Donc l'engin en question, c'est le Comet, qui est un avion qui est maintenant très célèbre compte tenu des difficultés qu'a eu cette série d'avions et des crashs qui se sont produits, et ça a permis de faire progresser toute l'aéronautique. C'est la société de Havilland qui propose cet avion. Voilà l'avion en question. Vous m'accorderez que pour un avion de 1952, il a un look relativement moderne. D'accord ? On verra des détails qui sont des erreurs de conception sur une photo un peu plus loin. Il y a une erreur. Il y a un détail qui a beaucoup choqué Boeing, qui était bien sûr en compétition avec des Havilland sur les mêmes types d'engins. Regardez où sont placés les moteurs de l'avion. Ils sont carrément à l'intérieur de l'aile. Ça, c'était à l'époque déjà considéré comme quelque chose d'un peu dangereux, parce que si le moteur prend feu, vous perdez l'aile. Et si vous perdez l'aile, vous perdez l'avion. De nos jours, vous pouvez regarder la plupart des avions, les moteurs sont dans des nacelles extérieures. Et alors, c'est un avion, les performances vont vous paraître modestes dans votre génération, mais à l'époque, 1952, c'est l'année de ma naissance. Donc c'est vieux. À l'époque, un avion qui pouvait voler à 750 km/h sur une distance de 4000 km, emportant 36 passagers, c'était considéré comme tout à fait remarquable et exceptionnel. Je rajouterai que c'était un avion, compte tenu de son mode de propulsion, qui n'était pas par hélice, qui est un avion silencieux, donc confortable. Donc ça a tout de suite beaucoup plu au public. Par contre, il y a eu 3 modifications majeures par rapport aux engins précédents. Premièrement, on a changé le matériau. On a utilisé pour cet avion des alliages d'aluminium qu'on ne connaissait pas bien. Ça vous arrivera dans votre vie. Parce que des nouveaux matériaux vont sortir et que vous serez amené à les utiliser. Faites très attention, tant qu'on n'a pas beaucoup utilisé un matériau, on peut avoir de sales surprises, des choses que vraiment on ne peut pas anticiper. Ça a été le cas sur ces alliages d'aluminium, qui résiste très peu à la propagation de fissures en fatigue. Deuxième gros changement, c'est l'altitude de vol. Jusqu'à présent, les avions volaient bas, si on peut dire. Donc on n'avait pas besoin de pressuriser la cabine pour que les gens respirent. Cette fois-ci, on a un engin qui monte à 10 000 mètres. Il faut donc le gonfler. C'est un mode de chargement nouveau, pas très expérimenté. Et donc, ça peut conduire à des évolutions de la structure pas tout à fait prévisibles, même avec une bonne formation d'ingénieur. Et donc, suite à ces... Bon, il y a bien sûr aussi la propulsion qui inquiétait tout le monde et qui, elle, n'a pas été un problème, en fait. Mais compte tenu de ces évolutions, ce qui s'est passé dans la structure, c'est un phénomène de fatigue que personne ne connaissait véritablement et ne savait prendre en compte au niveau de la conception à l'époque. Donc, on va rentrer dans le détail maintenant de la chronologie des accidents. Il y a eu tout d'abord deux accidents au décollage dont je ne parle pas, qui étaient essentiellement liés au fait que vous avez vu comment sont les entrées d'air des moteurs. Si au décollage, vous cabrez un peu trop l'appareil, vous étouffez le moteur, l'air ne rentre plus. Les deux avions se sont écrasés. Le premier s'est écrasé dans un champ, ça a blessé un petit peu les gens et cassé l'appareil. Le deuxième a eu moins de chance, parce qu'il s'est écrasé contre une digue. Il n'y avait pas grand monde à bord, mais tout le monde est mort. Il y a eu 7 morts. Mais c'est un problème d'une autre nature. Je ne veux pas faire de comparaison avec des choses qui ne sont pas jugées, mais essayez, si vous avez vraiment une âme d'ingénieur, intéressez-vous au problème du 737 MAX et comparez l'évolution, en quelque sorte, des réglementations sur cet appareil-là et les problèmes qui se sont produits à ce qu'on va raconter sur cette affaire qui est une affaire beaucoup plus ancienne. Donc, qu'est-ce qui a été dit sur cet accident du 2 mai 1953, qui est le premier accident en vol d'un comète 1. Donc la première chose que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on regarde s'il y a des gens qui ont vu l'accident et qui l'ont vu tomber. Peut-être certains d'entre vous ont de la famille qui travaillent au niveau des BEA, Bureau Enquête Analyse d'Accident. Vous savez que c'est le premier travail à faire, chercher des témoins. Donc là, il y a des gens qui ont vu tomber l'avion dans l'océan Indien. C'est un avion pratiquement sans ailes et en feu qui tombait. C'est embarrassant parce qu'un témoignage comme ça, aussi sincère qu'il est, peut donner une fausse piste pour analyser le problème. Les ingénieurs de la société de Havilland ont tout de suite suspecté une défaillance structurelle en disant « l'avion a explosé à cause de la pression ». Mais en fait, ce n'est pas ça qui a été conclu par l'enquête. La commission d'enquête, alors l'avion en question venait de traverser un très gros grain, comme on dit, il avait été très secoué. Et la commission d'enquête a conclu, en se trompant, qu'au cours du décollage, l'avion avait subi des accélérations très fortes, et en particulier des accélérations négatives au niveau de ses ailes. Ça avait cassé les ailes. Et donc, ils ont dit, la fatigue du matériau, la fatigue du métal, n'est probablement pas la cause de cet accident. Alors là aussi, ayez ce réflexe-là. Si vous avez des pépins, n'écartez pas trop vite les premières hypothèses qui vous viennent à l'esprit. La première hypothèse qui vous vient à l'esprit n'est pas forcément la bonne. Mais si elle vous est venue à l'esprit, c'est qu'elle ne peut pas être complètement stupide non plus. Donc, c'est un problème d'enquête, mais c'est aussi un problème simplement de bon sens. Notez que vous avez à réfléchir davantage à une cause possible que vous avez envisagée, même si au bout du compte, vous finissez par l'abandonner. Donc là, les enquêteurs se sont simplement plantés. Et quand un enquêteur sur un accident se plante, la suite est pratiquement écrite, l'accident va se reproduire. C'est presque certain. D'ailleurs, quand je viens de dire c'est presque certain, vous voyez quelque part derrière le problème des incertitudes quand on fait notre métier d'ingénieur, est quelque chose d'important. Et l'un des graals, en quelque sorte, de la formation dans cette école, c'est d'essayer de vous apprendre à gérer les incertitudes et à les mesurer, de manière à ne pas affirmer des choses, mais essayer d'avoir des fourchettes, en quelque sorte, et des pourcentages de vérité dans les phrases que l'on peut donner quand on est ingénieur. D'où l'importance en première année de votre cours de probabilité qui se poursuit ensuite par un cours de statistique et qui se prolonge dans les différents départements par l'application de ces concepts à des problèmes d'ingénieur. Donc, comme je l'ai annoncé à l'avance, mais c'est un peu facile pour moi de l'annoncer vu que ça s'est passé dans le passé, les enquêteurs s'étant trompés, un deuxième avion s'est planté et ça s'est produit le 10 janvier 1954. Beaucoup plus tard, après le décollage, et dans les deux cas de figure, l'avion avait atteint sa pleine altitude de 10 000 mètres. Donc là, on ne pouvait pas accuser les orages, parce que c'était par un temps particulièrement calme. L'avion se désagrège en plein vol et s'écrase dans la Méditerranée au large de l'île d'Elbe, sans que personne n'ait rien vu. 35 personnes à bord, bien sûr, 35 personnes tuées. Aucun témoin de l'accident, seulement des bribes de transmission partielle à la radio, des pilotes qui ont eu à un moment une petite sensation qu'il allait se passer quelque chose. On ne peut pas, à partir de ces éléments-là, avoir une vision claire de la cause du crash. Donc, la commission d'enquête en est réduite à faire des hypothèses. Et là aussi, j'ai l'impression qu'ils sont allés trop vite, mais surtout qu'ils ont été influencés par des gens qui n'avaient pas forcément la compétence, mais qui par contre avaient des intérêts dans cette affaire-là. Et j'entends par là des industriels et des hommes politiques. Donc, les ingénieurs, eux, ont tout de suite constaté que cet avion a explosé au moment où il atteignait 10 000 mètres. Réflexe d'ingénieur, on vient d'atteindre un chargement maximal, ça pète, c'est probablement lié. Donc, là encore une fois, les ingénieurs de Havilland ont soupçonné une défaillance de la structure, qu'ils ne comprenaient pas bien, mais ils avaient vaguement l'intuition que c'était ça qui se passait. Comme la cabine est pressurisée à environ une atmosphère, on diminue un tout petit peu la pression, mais guère, hein, c'est le moment où le chargement sur la carlingue est le plus fort. Pour vous donner une indication du niveau de chargement, vous avez ici une courbe qui vous donne la variation de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous avez la pression atmosphérique. Hein. Vous voyez le 10 en bas, en abscisse, c'est-à-dire 10 km. Vous avez donc une idée assez claire du niveau de pression que l'on peut avoir à l'extérieur de l'avion. J'ajoute qu'il fait une température de moins 50 degrés, ce qui n'arrange pas les choses non plus. Donc, un avion, à son altitude maximale, est un objet extrêmement chargé. Et à l'époque, ce n'était pas complètement compris. Donc, encore une fois, les ingénieurs soupçonnent une défaillance du fuselage. Par contre, il y a eu des interférences. Le projet Comet, pour les Britanniques et même pour l'humanité tout entière, c'était un projet véritablement prestigieux. C'était une révolution dans la manière de transporter les gens. Et en particulier, c'était très important pour l'industrie aérospatiale britannique, qui avait tous ses avions cloués au sol suite à cet accident. Et ça leur coûtait bien sûr une fortune, en particulier à la BOAC, qui était le propriétaire de cet avion-là. Donc il y a eu une assez forte pression des hommes politiques, en particulier de Churchill, pour éviter de clouer longtemps au sol les avions, trouver rapidement une explication qui permette de dire « oui, c'est un vrai accident, c'est pas un truc, on va dire, qui va se répéter ». Et ben, finalement, malheureusement, la commission d'enquête a un peu cédé à cette pression-là. Et en particulier, beaucoup de gens au niveau de l'entreprise réclamaient qu'il y ait des investigations supplémentaires. Et le gouvernement britannique s'est prononcé, ce qui est assez exceptionnel, il est sorti complètement de son rôle, il s'est prononcé contre l'ouverture d'une enquête publique supplémentaire sur l'accident. Donc ça, vous risquez de le vivre aussi. Vous risquez d'avoir plusieurs acteurs majeurs dans votre domaine d'action qui peuvent avoir des points de vue véritablement concurrents. Votre devoir d'ingénieur, j'insiste là-dessus, c'est de résister. Si vous avez un doute, si vous pensez que ça met en danger la sécurité de nos concitoyens, des humains d'une manière générale, résistez. Résister de toutes vos forces. La plupart des accidents dont je vais vous parler sont liés à ça. Des gens qui ont des convictions, qui en plus sont justes, on le sait a posteriori, et qui ne peuvent pas résister au système de pression dans lequel ils sont, alors qu'ils analysent parfaitement que les raisons de ces pressions n'ont rien à voir avec le problème technique. C'est des problèmes politiques, des problèmes de prestige, des problèmes de communication, surtout des problèmes financiers. L'ingénieur doit être capable, doit avoir la force de caractère. Et c'est ça, une partie de la formation qu'on essaye de vous donner, avoir la force de caractère et le niveau de prestige dans votre boulot pour dire non, je n'accepte pas ces pressions, je pense que c'est dangereux, ça coûte des sous, c'est pas grave, il n'y a rien qui vaut la vie des gens qu'on va mettre en place et qu'on va ensuite abandonner à un triste sort. Donc regardez ça, c'est ahurissant quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, mais bien sûr, c'était en 1954, on sortait d'une guerre où il y avait eu beaucoup de morts, etc. Peut-être que la vie humaine n'avait pas tout à fait le même prix malgré tout. L'accident a eu lieu le 10 janvier 1954. Au 23 mars 1954, vous vous doutez bien qu'on n'a toujours rien compris à cet accident. Il y a des gens qui bossent pour essayer de comprendre. Il y a des hypothèses sur une défaillance structurale, mais on n'a rien prouvé. Et comme on n'a rien prouvé, à peine 2 mois après, on reprend les vols et on continue les investigations. Qu'est-ce qui va se produire à votre avis? Bien évidemment, on relance des engins exactement similaires aux 2 premiers qui se sont plantés. Il va donc forcément y en avoir un 3e qui se plante. 10 janvier, 23 mars, c'est trop court pour se faire une opinion sur un sujet technique compliqué. Cette grave faute avait été repérée par un certain nombre de gens. Je me souviens d'avoir vu sur YouTube l'interview qu'une journaliste a fait du PDG de De Havilland. Je vous encourage à chercher. Je n'ai pas voulu la mettre parce que ça fait un petit peu cinéma pour faire monter les émotions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez conscience de vos responsabilités et pas que vous pleuriez les misères de nos grands anciens. La journaliste demande au PDG de De Havilland, avant que les vols reprennent, mais est-ce que ça n'est pas dangereux vu qu'on n'a pas compris? Et le PDG la regarde droit dans les yeux et lui dit, regardez-moi, est-ce que vous croyez que je suis un homme qui accepterait de faire prendre des risques à mes passagers? Bien sûr que non. Donc si je fais redémarrer les vols, c'est qu'il n'y a aucun risque. Un mensonge aussi énorme que ceux qu'on a pu voir récemment, plutôt donné par des hommes politiques, mais là c'était en fait un PDG d'une entreprise industrielle qui par ailleurs, il faut bien le dire, était passionné par l'aventure industrielle de son entreprise. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas faire passer ce type de considération ou les considérations du prestige du pays, ou les considérations de l'importance de l'industrie britannique par rapport à ce qui se développait ailleurs dans le monde, et en particulier avec Boeing, puisqu'ils étaient en concurrence. Le fait qu'ils soient sous pression n'est pas une justification suffisante pour accepter de refaire démarrer des avions quand on n'a pas compris pourquoi le premier s'est planté, d'autant qu'il y avait bien sûr des ingénieurs qui disaient « Faites attention, vous donnez 2 explications différentes pour 2 vols pour 2 accidents qui ont énormément de similitudes. Probablement que s'il y a des similitudes, c'est que c'est la même cause. Et donc il y a quelque chose dans le système qui ne fonctionne pas. Mais malgré ça, ils ont fait redémarrer le 23 mars 1954. Et quelquefois, l'histoire est malheureusement cruelle. Regardez la différence de date. Hein. 8 avril 1954, 23 mars 1954. Un autre avion explose plus exactement, avec 21 passagers à bord. C'était un avion quasiment neuf, il n'avait que 2000 heures de vol. Alors là, ils ont quand même fixé au sol, on va dire d'une certaine manière, définitivement les avions comètes. Et ils se sont dit, oui, on ne peut pas jouer comme ça avec la vie des gens, d'autant que vous comprenez bien qu'une entreprise qui produit des avions qui pètent tous les 3 mois, des avions neufs qui explosent tous les 3 mois, plus personne ne les achète. Hein. Donc, même d'un point de vue commercial, si vous voulez, d'un point de vue du prestige, prenez tous les arguments qui faisaient dire aux hommes politiques et aux industriels, allez, on redémarre. Vous voyez bien que c'est une énorme bêtise. C'est une énorme bêtise. Vous faites redémarrer un système dangereux et vous avez la certitude que ça va péter. Donc ça pète. Conclusion, vous perdez tout. Vous perdez le prestige, vous perdez l'industrie, vous perdez l'argent. Et vous perdez en plus les gens qui sont montés dans les avions. Ce que je vous raconte de cette vieille histoire, ce que je vous encourage à faire comme ingénieur ou comme futur ingénieur, c'est de réfléchir chaque fois que quelque chose du même genre se produit de nos jours. Regardez, c'est toujours les mêmes mécanismes du côté obscur de la force qui poussent les gens. Oui, je vois qu'ils connaissent encore un petit peu le côté obscur de la force, mais qui poussent les gens à ne pas tenir compte des warnings, des gens qui ont la compétence, qui sont d'un niveau un petit peu inférieur dans la hiérarchie. C'est toujours pareil. Et les conséquences sont toujours catastrophiques, y compris par rapport aux raisons qui ont poussé ces dirigeants à vouloir brûler les étapes. Donc, pensez-y. Ça coûte une fortune. Demandez-vous quelle sera la situation future de Boeing compte tenu de ce qui s'est passé, pas sur le premier accident, mais sur le deuxième accident. Le deuxième accident du 737 au décollage, c'est exactement le même que le premier. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps? Pourquoi ils n'ont pas interdit les vols? Vous savez sans doute, c'est en train de fuiter, que L'équivalent de nos services de régulation en Europe existe bien sûr aux États-Unis, et que ce service-là avait envisagé d'interdire les vols jusqu'à la compréhension du problème. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Posez-vous la question. Moi, je n'ai pas l'information factuelle, objective, pour vous le dire. Mais je le devine. Ils ont subi des pressions. Clouer tous ces avions-là, qui représentent une grosse partie de la flotte actuelle, ça coûte une fortune. Regardez la production de Boeing dans les prochaines années. Regardez son carnet de commandes. C'était presque essentiellement des avions de ce type qui étaient en préparation. Donc ça coûte une fortune à l'entreprise. Est-ce que vous croyez que c'est intelligent de ne pas avoir bloqué les avions, le temps de comprendre, le temps de corriger, et d'avoir laissé se planter le deuxième avion? Bien sûr, non, c'est crétin. Boeing va perdre ses marchés, Boeing a perdu son prestige, l'administration américaine s'est ridiculisée. Il faut tenir compte de ce genre de choses. Pensez-y. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben là, ils ont mis le paquet pour essayer de comprendre. Enfin, ils ont fabriqué une très grande piscine. La BOAC, qui possédait des avions qui n'avaient plus le droit de voler, a fait cadeau d'un avion. Ils ont mis l'avion dans la piscine et ils ont gonflé le ballon avec de l'eau. Pourquoi avec de l'eau? Parce que vous savez tous que si on gonfle à l'air et si ça pète, ça fait des dégâts énormes. C'est une bombe. Si vous gonflez à l'eau, ça se déchire. D'accord? C'est comme ça qu'on teste les bouteilles de plongée, par exemple, qui doivent résister à 200 bars pour l'usage des amateurs. On les teste avec de la flotte ou de l'huile à des pressions sensiblement supérieures. Et quand ça casse, ça fait une petite déchirure et l'huile sort. Ça n'est pas tout à fait la même chose que si vous avez un gaz. Donc, ils ont gonflé cet avion, dégonflé, gonflé, dégonflé un certain nombre de fois. Donc, ben, cet essai-là était un essai, pour le coup, très cher, mais absolument nécessaire. Et donc, dans cet immense réservoir d'eau, donc l'avion dont vous voyez le matricule a fini par péter le 24 juin 1954. Vous voyez, entre le mois de mars et le mois de juin, il s'est passé quoi? 2-3 mois. Est-ce que c'était vraiment utile de redémarrer alors que les essais étaient en cours, en fait? On a fait redémarrer alors que les essais étaient en cours. Et il a cassé à 3057 cycles. Ça veut dire que l'avion en question aurait pu faire 3000 décollages, probablement, peut-être un peu moins, parce que les chargements à 50 degrés sont plus méchants, à moins 50 degrés, pardon, Celsius, sont plus méchants. Mais enfin, voilà, l'ordre de grandeur de la durée de vie de l'avion en termes de nombre de décollages, c'est 3000 et peut-être plutôt moins. Il suffisait d'attendre pour le savoir. Mais c'est surtout que, à cause de cet essai qui permet de récupérer l'intégralité de l'avion détruit, on voit ce qui s'est passé. Et vous voyez qu'il y a tout un morceau de l'avion qui s'est détaché. L'avion a explosé mollement, parce que c'était du liquide, mais il a quand même explosé. En fait, en analysant les morceaux cassés, on s'aperçoit qu'il y a une fissure qui a été initiée au niveau du rivelet d'un hublot, et qui, après une certaine longueur, après une certaine taille, si vous êtes intéressé et si vous faites GMM, c'est un exercice que l'on fait en GMM, savoir quelle était la longueur de la fissure à partir de laquelle l'avion pouvait exploser. Et vous serez très troublé si vous faites cet exercice de voir que c'est tout petit. Une toute petite fissure suffit pour faire exploser un avion qui est gonflé à une atmosphère quand il y a un quart d'atmosphère à l'extérieur. Donc voilà les photos de l'époque qui ont été prises. Vous voyez le petit carré, c'est l'endroit où la fissure est partie. Et si on zoome, voilà ce qu'on voit. La fissure est partie du trou d'un rivet. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça d'un point de vue technique? Contrairement à ce qu'on pensait à l'époque qui était gravé dans les cerveaux des ingénieurs, ce n'est pas le nombre d'heures de vol qui fait la durée de vie d'un avion, mais c'est le nombre de décollages et d'atterrissages pour les avions civils qui montent à très haute altitude. Deuxième chose qui est importante, vous avez vu où se trouve le rivet. Le rivet se trouve au voisinage d'un hublot. Or, les hublots ont été mal dessinés, si l'on peut dire, enfin de nos jours, on peut dire qu'ils étaient mal dessinés, à l'époque on ne le savait pas. Les hublots des premiers comètes étaient des hublots carrés. J'espère que vous avez assez avancé avec le cours de Luc Dormieux pour savoir que si on met des angles de ce type-là dans la matière, localement la contrainte se concentre fortement. Retenez, parce que c'est important, que si on perce un trou circulaire dans une tôle en traction, au bord du trou, la contrainte est égale à 3 fois la contrainte de traction ailleurs. Mais si vous avez le mauvais goût de faire des trous qui ne soient pas circulaires, la contrainte peut monter encore plus. Et quand vous avez la mauvaise idée de vouloir fixer les hublots avec des rivets, ça veut dire que dans la zone où la contrainte a été concentrée, vous avez repercé un trou. Donc vous avez remultiplié dans une zone où la contrainte est déjà fortement montée, la contrainte par 3. Le bord du trou du rivet est donc une zone très, très fortement contrainte. Et vous verrez que la technologie utilisée pour riveter était en plus une technologie qui faisait courir beaucoup de risques. Donc cette histoire de concentration de contraintes était un peu connue à l'époque, mais largement sous-estimée parce que les problèmes de chargement de ce type-là n'existaient pas et ces problèmes de matériaux n'existaient pas. Et donc on peut faire les calculs, et ils ont fait les calculs à l'époque et les élèves GMM les refont. Et on arrive à une estimation du nombre de vols, du nombre de décollages, de gonflages de l'avion acceptable pour les avions de ce type-là, entre 1000 et 9000. Vous pouvez faire entre 1000 et 9000 décollages. Comme vous avez un certain nombre d'avions, les premiers vont péter aux alentours de 1000 décollages. C'est exactement ce qui a été observé. Je ne sais plus exactement, j'ai plus les chiffres en tête, j'aurais peut-être dû les marquer, je les ai peut-être marqués d'ailleurs après. Mais c'était de l'ordre de 1200 à 1300 décollages. Un d'entre eux a pété même avant 1000. Bon, donc vous voyez une incrimination très forte dans la conception de l'appareil sur la forme carrée des hublots. Voilà le Comet. Je ne sais pas si vous voyez bien les hublots. Voilà un de hublots. Il n'y a plus un avion comme ça maintenant. D'accord ? Dans le coin, la concentration de contraintes est terrible. Le raisonnement de l'époque, c'était de dire c'est local. On s'en fout. Sauf que dans ce matériau-là, quand vous avez une petite fissure qui se crée localement à cause de la concentration de contraintes, le matériau se déchire. Et c'est ce qui a été observé sur ces 3 accidents. En plus, juste facteur aggravant, ils avaient inventé un nouveau système pour fixer les hublots. Les hublots, je vous l'ai dit, étaient rivetés. Au départ, dans la conception, les ingénieurs avaient dit riveté collé. Et le collage n'a pas été fait, parce que le rivetage tenait bien le hublot. Simplement, des hublots collés, ça aurait empêché la propagation de la fissure à partir du rivet. Donc, ça, c'est le premier défaut. Le deuxième gros défaut, c'est qu'ils ont utilisé une technique qu'on appelle de rivet poinçonnant. Donc, c'est le rivet lui-même qui perce son trou avant d'être écrasé, contrairement à la technique qui consiste à percer proprement, puis à mettre un rivet. Et un rivet poinçonnant, exercice qu'on peut faire aussi en GMM, si ça vous amuse, on ne l'a jamais fait celui-là, mais il n'est pas très compliqué. Un rivet poinçonnant fait forcément démarrer des initiations de fissures. Donc, cette technique-là, sûrement très économique et très efficace, était particulièrement dangereuse, et ça n'avait pas été perçu. Il se trouve que, par la suite, les services de Grande-Bretagne ont réussi à retrouver les 2/3 de l'avion qui s'est écrasé au large de l'île d'Elbe. Ils ont reconstitué la carlingue, et ils ont pu prouver sur l'avion qui avait explosé en l'air que c'était bien une fissure de fatigue à partir d'un trou d'enrivée sur l'ouverture avant qui avait fait exploser l'appareil. Donc après coup, après les essais en piscine, en quelque sorte, on a retrouvé l'appareil reconstitué presque entièrement. Et là, pour le coup, c'est une preuve totalement incontestable du problème de conception de cet appareil. Donc voilà, je vous ai donné un certain nombre de conseils pour votre vie. Vous êtes jeune, donc je ne pense pas que vous puissiez les digérer. Mais retenez l'idée principale que j'essaye de vous passer. Un ingénieur est un homme dangereux. Est un homme dangereux parce qu'il fait des objets dans lesquels les concitoyens montent et qui peut les entraîner vers la mort. C'est vrai pour les avions, mais c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les centrales nucléaires, c'est vrai pour énormément de choses. Et malheureusement, faire un cours sur les accidents, on ne manquerait pas de matière si on voulait le faire. Il y en a énormément, tous les ans. D'accord ? Juste par curiosité, si vous voulez prolonger un peu la réflexion, connectez-vous sur les sites qui listent les accidents d'avion. Connectez-vous et regardez les accidents d'avion sur une année seulement. Vous serez impressionné. Et pourtant, le transport aérien est le plus sûr des moyens de transport. Mais à chaque fois, il y a des bêtises de fait. Elles ne sont pas toujours faites par les ingénieurs, je dirais de moins en moins souvent par les ingénieurs. C'est quelquefois, et le plus souvent malheureusement, des erreurs de pilotage. D'accord ? C'est ce que Boeing a essayé de faire croire pour les avions qui se sont écrasés au décollage. Mais là, en l'occurrence, c'est bien leur machine qui a des problèmes. Et on va regarder un deuxième accident, si vous le voulez bien.
Oui, ça va.
Presque 11 heures. D'accord. Un deuxième accident, qui est un accident lui aussi extrêmement médiatisé. Quel est l'intérêt d'un accident médiatisé ancien? Premier intérêt, c'est comme il a été médiatisé, on trouve l'information. Deuxième intérêt, comme il est ancien, tout ce qui est production de rapports, jugement, etc. est fait. Mais la racine même qui cause l'accident, c'est la même que sur les pépins que l'on voit de nos jours. Hein, d'accord? Alors, cette navette spatiale Challenger, dans ma génération, ça a été un très grand choc. C'est une navette qui s'est désintégrée le 28 janvier 1986. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, donc vous n'en avez même jamais entendu parler. Et pourtant, dans l'histoire de la conquête spatiale humaine, ça a été un moment extrêmement fort et tout à fait dramatique qu'on aurait largement pu éviter avec un tout petit peu de bon sens et de qualité d'organisation. C'est un point sur lequel on reviendra. Cette navette a explosé 73 secondes après son décollage. Ça a bien sûr tué 7 astronautes de l'équipage puisque ça a explosé. La raison apparaît être de détail. Ces navettes-là sont accrochées sur des gros réservoirs qui permettent de pousser la navette. Et ces réservoirs, on leur adjoint 2 propulseurs à poudre. Ces propulseurs à poudre sont faits d'un certain nombre de tubes qu'on emboîte les uns dans les autres. Et bien évidemment, il faut que ce soit étanche. Donc on met un joint entre les différents morceaux du tube. Et il y a un joint du propulseur d'appoint, ça s'appelle un propulseur d'appoint à poudre droit, qui, en raison du froid, a mal fonctionné. Il est devenu perméable, ce joint-là. Ça a donc extrait de la matière inflammable, qui bien sûr s'est enflammé. Et donc, ça a fait boum. Donc la structure de l'appareil sous la flamme à cause de la fuite a cédé. Donc après, le reste, le détail, on s'en moque un peu, mais c'est le dôme inférieur du réservoir qui se sépare. Et ce qui s'est passé, c'est que les forces aérodynamiques avec ce système déséquilibré ont dévié la trajectoire. Et le fait que la trajectoire soit déviée, ça veut dire qu'elle se plantait, elle se présentait mal par rapport à sa vitesse, en quelque sorte. Les efforts aérodynamiques exercés sur l'engin n'étaient pas du tout ceux qui étaient prévus pour la conception. Donc ça a pété. Juste un petit mot, c'est le seul moment un peu d'émotion que je souhaite mettre dans cet exposé, juste pour vous rappeler que les gens qui meurent, c'est des gens, quoi. Vous voyez à quoi ils ressemblaient, des gens en pleine forme, physiquement. Triste, c'est triste. Au passage, quelque chose m'agace dans ces photos. Vous la reverrez sur la deuxième navette. C'est que la com intervient partout. Notez l'équipage. 4 hommes blancs, 1 homme noir, 2 femmes. C'est une norme. C'est une norme. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'était comme ça à l'époque. Bon, j'avance. Si vous voulez les noms des gens, le nom qui présente le plus d'intérêt du point de vue de l'histoire et de l'émotion qu'on peut en avoir, c'est le nom de Christina McAuliffe, qui est la deuxième derrière, en partant de la gauche. Cette dame-là n'était pas du tout astronaute. C'était une institutrice qui s'est formée et qui avait été mise là-dedans, là aussi pour la com. D'accord? Pour faire parler les journalistes sur l'intérêt de ces navettes, le fait qu'on est proche du peuple, etc., etc., etc. Pourquoi tout ça? C'est que ces aventures-là coûtaient une fortune considérable aux contribuables américains. Quand ils allaient sur la Lune, tout le monde était très fier d'avoir un Américain qui mettait le pied sur la Lune. Ça dépensait, mais personne râlait. Et puis petit à petit, les gens ont dit, mais ça fait beaucoup d'argent qui sort des poches du contribuable. Donc il a fallu trouver des trucs pour que le public continue à adhérer à cette conquête spatiale. Je vous assure que les programmes scientifiques qui étaient faits, puisque ces navettes-là, elles avaient essentiellement pour vocation d'aller sur la station spatiale internationale, le programme scientifique qui était derrière justifiait largement toutes les dépenses d'argent qu'on pouvait faire pour y aller. Mais ce n'est pas là-dessus que les gens de la communication s'appuyaient. Et donc cette malheureuse institutrice qui avait fait beaucoup d'efforts pour pouvoir être qualifiée pour cette affaire-là, y a laissé sa peau. Bien, alors, regardons où sont les responsabilités. D'abord, on ne tire pas une navette spatiale ou une fusée, quelles que soient les conditions météo. Les prévisions pour le 28 janvier 1986 annoncé une matinée particulièrement froide dans le coin en question, qui est quand même plutôt au sud des États-Unis, ça veut dire une température de à peine en dessous de 0 degré Celsius. C'était la température minimale autorisée pour le décollage, donc ils étaient juste à la limite. Et à la limite par rapport aux annonces. Hein. Alors, ces basses températures ont inquiété des ingénieurs. Une navette spatiale, c'est beaucoup, beaucoup d'entreprises, énormément d'ingénieurs qui travaillent un petit peu partout sur plein de pièces. Et en particulier, il y avait l'entreprise Thiokol, dont la charge était de fournir des joints en caoutchouc pour assurer l'étanchéité entre les différents tubes des propulseurs à poudre. Et maintenant, tout le monde, tous les ingénieurs savent que les caoutchoucs ont une caractéristique physique essentielle qui est leur température de transition vitreuse, c'est-à-dire que ça n'est véritablement du caoutchouc élastique qu'au-dessus de cette température. Si vous descendez en dessous de cette température, vous perdez totalement l'élasticité et si vous écrasez votre matériau, il reste écrasé. Bien évidemment, vous n'avez plus d'élasticité, donc l'étanchéité est perdue. Donc c'était cette petite entreprise qui fournissait des joints toriques en caoutchouc qui permettait d'assurer l'étanchéité des différents segments du propulseur à poudre. Les ingénieurs, voyant les températures, surtout un ingénieur particulièrement courageux, s'inquiète. Et dans la soirée du 27 janvier, l'ingénieur arrive à provoquer une réunion avec des cadres de Thiokol et aussi des responsables de la NASA, ce qui est catastrophique. Parce que les responsables de la NASA étaient au courant du problème. L'ingénieur dit, c'est pas possible de tirer, ça va exploser, le joint n'est pas étanche. Alors il y a eu beaucoup, beaucoup de littérature, y compris des films qui ont été faits autour de cet accident, donc pas mal de choses romancées, mais un certain nombre de choses exactes, et en particulier, le patron de Thiokol aurait dit à l'ingénieur, mais arrête de faire l'ingénieur, essaye de faire un peu le manager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ingénieur n'a pas réussi à convaincre, et on retrouvera ça pour ceux qui bossent avec moi de temps en temps, comme l'une des conditions majeures pour être un bon ingénieur. Il faut avoir des convictions étayées et il faut convaincre. Donc, il a donné plein d'arguments, etc., qui étaient des arguments tout à fait réalistes, de bon sens, très scientifiques. Il a insisté sur le fait que ces joints étaient classés comme des joints critiques 1, c'est-à-dire que s'ils ne fonctionnent pas, on perd la navette et on perd l'équipage. Et malgré tout ça, les remarques ont été rejetées. Et les responsables de Thiokol ont recommandé à la NASA de maintenir le vol comme prévu. Je pense que vous voyez à quel point c'est grave. Ne pensez pas que vous serez toujours, toute votre vie, à l'abri de ce genre de choses. Ça peut vous arriver, ça n'arrivera pas à tous, je l'espère. Mais si ça vous arrive, il faut que vous ayez une conscience claire de votre devoir. Votre devoir, ce n'est pas la bonne santé de l'entreprise Thiokol, qui est morte tout de suite derrière, bien sûr, vous vous en doutez. Votre devoir, c'est la réalisation de la mission qu'on vous demande. On demande à cet ingénieur des joints étanches dans une situation particulièrement critique. Si le joint n'est pas étanche, il faut réagir. Lui a bien réagi. Il a convoqué des responsables de la NASA. Malheureusement, je suppose que son discours n'était pas suffisamment clair. Je suppose. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'un responsable de la NASA à qui on dit « la navette que vous allez tirer demain va tuer cette personne », disent « bouf ». Ça m'étonnerait. D'accord? Donc, les responsables de la NASA ont peut-être simplement considéré que c'était un anarchiste, un révolutionnaire, ce que vous voulez, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans leur tête. En tout cas, les dirigeants de Thiokol lui ont dit « tais-toi, on tire ». C'est grave. Juste quelques indications complémentaires. Il y avait beaucoup, beaucoup d'indices qui permettait de savoir que ce tir était dangereux. Regardez à quoi ressemblait l'aire de lancement, le jour du lancement. C'est une photo du jour du lancement. Il faut savoir que quand il y a un lancement, il y a des équipes spécialisées dans la gestion de la glace. Les équipes spécialisées dans la gestion de la glace ont des thermomètres. Des thermomètres avisés, hein, bien sûr, comme vous les connaissez. Et par accident, ils ont mis leur thermomètre sur le joint. Et en fait, ils ont constaté avec une certaine surprise que le joint en caoutchouc n'était pas à 0 degré, ce qui était déjà dangereux. Il était à moins 13 degrés. Parce que tel qu'était conçu le système, il y avait en quelque sorte un courant d'air qui venait du stockage de l'oxygène à très basse température. Et ce courant d'air passait sur le joint. Donc, voilà, un courant d'air, vous touchez un réservoir très froid, puis vous touchez un joint, le joint baisse en température. Et là, il y a un problème de fonctionnement majeur. Parce que ces gars qui s'occupent de la glace sont quand même considérés comme des gens qui connaissent la technique, qui s'intéressent à la technique, qui savent qu'un caoutchouc, à cette température-là, n'est pas du tout caoutchoutique, il est cassant. Et on est très largement en dessous de la transition vitreuse. Donc cette information, ils l'ont notée, mais ils ne l'ont pas communiquée. Donc, grosse défaillance en quelque sorte, liée au fait que les gens, les ingénieurs en question, sont trop dans leur domaine. Une fusée, comme la plupart des objets mécaniques ou électroniques, c'est des systèmes. Vous ne pouvez pas dire, moi on m'a demandé de m'occuper de la pompe à essence de mon moteur. Je vois bien qu'à côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Évitez ça. Vous êtes concerné par tout. Donc là, il y a une grave erreur. Deuxième grosse erreur. On filme, bien sûr, les fusées au départ. Ça, c'est la fusée au moment où elle part. En regardant sur la droite de la photo, vous avez le booster à poudre qui est là. Au niveau du joint, qu'est-ce que vous voyez sur la droite? Un petit nuage de fumée. C'est bien sûr totalement non conforme. S'il y a un nuage de fumée, c'est qu'il y a une fuite et quelque chose qui brûle. Ils auraient dû arrêter le vol sur cette image. C'était encore possible. Et en fait, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des précipitations d'oxyde d'aluminium, qu'on appelle l'alumine, dans le trou, dans le jeu en quelque sorte, entre les deux morceaux du booster. Et cette précipitation d'alumine a, pendant quelques minutes, ralenti le débit. Donc les gens considéraient que c'était sans importance. Sur la base de quoi? Quand vous avez un engin avec cette puissance qui démarre, voyez ce genre d'indice, sur la base de quoi considérez-vous que c'est un indice mineur? Il y a quand même quelque part un gros défaut de raisonnement lié à la pression médiatique, à la pression liée à la communication autour de ce genre d'acte. Vous devez absolument refuser d'être soumis à des pressions de ce type-là et garder votre objectivité dans votre jugement. C'est très important pour un ingénieur. Un ingénieur qui voit ça et qui est un vrai ingénieur dit « Oh là, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas, c'est donc potentiellement dangereux vu la quantité considérable d'énergie qu'il y a derrière. C'est potentiellement dangereux. » Je vais vous prendre un autre exemple. Imaginez que vous utilisiez les nouvelles batteries électriques. On l'a fait dans un projet GMM. À un moment, on s'aperçoit que cette batterie lithium-ion commence à gonfler. Les élèves étaient pressés, il leur restait 2 jours pour finir leur projet GMM. Premier réflexe du chef de projet, parce qu'il y en a toujours un, même si vous ne le désignez pas, il y en a un qui le devient de fait, c'est dire, oh, c'est pas grave, on va continuer, il ne nous reste que 2 jours. Un autre, pas chef de projet, mais sensiblement plus profond, dit, écoute, non, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il prend la batterie, il la jette à l'extérieur, et ça fait boum. Ils auraient pu être autour de la batterie quand elle a fait boum. D'accord? Donc là, honnêtement, j'ai été épaté par la réaction de l'élève, et ça, ce genre de choses, dans un petit projet GMM, imaginez ce qui peut se passer si c'est un téléphone qui a une batterie qui explose. Oui. Hypothèse d'école, bien sûr, ça se produit jamais. Donc voilà, ok, si vous avez un problème sur un engin, si vous soupçonnez un problème, et les gens de Samsung le soupçonnaient, ce problème-là, il y avait eu un conflit énorme pour arriver à diminuer l'épaisseur des téléphones. Les gens de Samsung le savaient. Les ingénieurs qui connaissaient le problème se sont laissés convaincre par les gens qui disaient « mais si on gagne un demi-millimètre, on tue la concurrence, ou on est meilleur sur le marché. » C'est grave. C'est grave comme comportement. Il faut que vous ayez conscience de la gravité. Et c'est plus facile pour des ingénieurs qui sortent de cette école. Parce que cette école donne un diplôme qui a du prestige. Un ingénieur qui sort d'une plus petite école a plus de mal à imposer et à faire valoir ses convictions sur les objets dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous êtes dans une situation un peu plus facile dans les discussions compte tenu de la qualité de votre diplôme, vous avez une responsabilité beaucoup plus écrasante que les autres. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. D'accord? Donc ça, juste, je vous passe pas le film de la navette qui explose, parce que le point important, c'est le commentaire du gars, d'une neutralité absolue, qui dit, voilà, ça se passe bien, ceci, cela, ah, la navette a explosé. Sans plus. Bon. Durant la désintégration de la navette, donc elle a explosé très vite, hein, 73 secondes, vous pouvez voir le film en entier sur Internet, vous le trouverez. Je vais continuer par des choses assez tristes, mais qui font aussi réfléchir. La désintégration de la navette, en fait, ce n'est pas véritablement une explosion. C'est plutôt ce qu'on appelle une déflagration. D'accord ? C'est-à-dire que l'explosion est suffisamment lente pour ne pas tout casser. Ça casse le véhicule, bien sûr. Mais l'habitacle, lui, n'a pas été cassé. Il s'est détaché d'un seul bloc, et comme il n'avait plus de véhicule, il est tombé en chute libre. Donc, la force de séparation, c'est bien sûr une très forte accélération, 20 fois la force de gravité, mais un être humain survit à peu près à 20 fois la force de gravité, surtout les gars en forme. Et en moins de 2 secondes, les forces étaient fortement descendues, et ils étaient en dessous de 4G. En dessous de 4G, même un homme moyennement en forme survit bien. Et en 10 secondes, ils étaient juste en chute libre. Donc la seule accélération qu'ils encaissaient, c'était zéro. Hein, parce qu'en chute libre, vous n'avez même pas votre poids. Donc c'est des forces qui étaient insuffisantes pour tuer les astronautes et pour leur faire des lésions sérieuses. Ça a été prouvé par des biomécaniciens qui ont fait des modèles extrêmement précis. Donc le plus vraisemblable, c'est que les astronautes étaient encore en vie et conscients après la séparation de la navette et la chute de leur véhicule. Et ça a été prouvé par le fait que, dans les enregistrements de vol, pendant la chute qui a duré quelques minutes, il y a au moins 3 des 4 dispositifs du poste de pilotage accessibles dans ce genre de situation qui ont été activés. Donc les gars à l'intérieur de la navette, qui ne pouvaient plus communiquer parce que les systèmes de communication étaient détruits, ont essayé de faire des manœuvres pour s'en sortir. Et ils sont morts. Quand ils sont arrivés à la surface de l'eau, ils avaient une vitesse de 334 km/h. Quand vous tapez de l'eau à 334 km/h, on vous met un mur de béton ou de l'eau, c'est à peu près pareil. Il n'y a plus aucune chance de s'en sortir. Alors, je souligne ça simplement parce que dans les tout premiers vols de la navette, il y avait des systèmes, en quelque sorte, de sauvegarde si la capsule de la navette devait tomber. Ils avaient mis des systèmes de sécurité, genre parachute, etc. Et ils ont pris la décision, quand les vols commerciaux ont commencé, de les enlever pour gagner de l'argent, pour gagner de la masse. Et avec une affirmation sans preuve, la preuve c'est que ça a cassé, que ce type d'incident ne se produirait jamais. Donc ils ont éliminé un système de sécurité qui permettait de récupérer, en cas d'explosion de la navette, la capsule, et éventuellement de récupérer donc des astronautes pas forcément morts. Donc, quand on enlève un système de sécurité, il faut étayer. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais les enlever. Mais on prend forcément plus de risques. Et la culture du calcul du risque que l'on prend quand on fait ce genre de décision n'est pas forcément très ancrée dans un certain nombre de formations d'ingénieurs. Donc pensez-y. Vous serez amené, vous aussi, certainement, à supprimer des systèmes de sécurité qui coûtent cher. Vous allez travailler sur les véhicules autonomes pour un certain nombre d'entre vous. Il y a des systèmes de sécurité qui alourdissent la machine, qui coûtent relativement cher. Avant de les enlever pour être un tout petit peu plus compétitif que votre concurrent, réfléchissez bien. Bien, alors les conclusions de la commission d'enquête, c'est que le problème majeur est un problème de communication. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette affirmation-là. La décision de lancer Challenger était basée sur des informations incomplètes et parfois trompeuses, un conflit entre les données d'ingénierie et les choix de gestion. Que dire d'une phrase comme ça? Un conflit entre les choix de gestion, piloté par tout un tas d'intérêts financiers, communication, prestige, et des données d'ingénierie qui sont censées dire, si ce n'est la vérité, au moins des convictions techniques très fortes. Il n'y a pas photo. Enfin, vous allez me dire, je suis ingénieur, je suis de parti pris. Mais il n'y a pas photo. Quand quelqu'un dit, ça peut sauter, on l'écoute. On ne dit pas, oui, mais il y a la presse qui a été convoquée. D'accord ? Bien. Et donc, ce que reproche la commission d'enquête, c'est que les problèmes de sécurité interne au vol sont passés après les décisions des personnes chargées du vol, qui se sont quasiment pas intéressées, qui n'ont pas cherché l'information, à qui un certain nombre d'ingénieurs ont essayé de faire passer des messages, et ils n'ont pas réussi. L'importance d'être percutant quand on est ingénieur de haut niveau. Si vous avez une conviction, assurez-vous qu'elle soit d'abord valable, que ce ne soit pas juste une idée en l'air. Mais dès que vous avez des certitudes, il se peut que vous vous trompiez. Mais votre devoir, c'est d'exposer ces certitudes et de convaincre. C'est important, ça se fait malheureusement de moins en moins, parce que dans notre société, le pouvoir des ingénieurs a beaucoup diminué par rapport à d'autres fonctions dans l'entreprise. Il se trouve que dans cette commission d'enquête, il y a quelqu'un que j'aime bien, même si c'est un cabotin, c'est Richard Feynman, qui est un professeur de physique tout à fait phénoménal. Il a travaillé sur le projet Manhattan, par exemple, pour vous donner une idée du calibre. C'était un professeur adoré de ses élèves parce que, disons que c'était quelqu'un qui parlait avec une certaine franchise et une certaine simplicité. Il a beaucoup dérangé la commission d'enquête. Le patron de la commission d'enquête a même dit à un moment, Feynman, ça commence à être un problème pour nous. Parce qu'il était emmerdant avec cette commission d'enquête qui essayait d'arrondir les angles, etc. Et donc Feynman, parce que c'était une personnalité forte, a réussi à obtenir le droit de rajouter une annexe à la commission d'enquête pour donner son point de vue. Et voilà ce qu'il dit. Premièrement, il raconte une anecdote qu'il raconte aussi dans ses mémoires avec beaucoup plus de détails, et c'est intéressant à lire. Je vous encourage à lire ses mémoires. Là, vous verrez que c'est effectivement un cabotin, mais cabotin assumé, quoi. Dans ses mémoires, il dit « Je suis un cabotin oui. ». Et donc, il a fait une manip extrêmement simple. Il a demandé, quand il était dans cette commission d'enquête, à un serveur de lui apporter une boisson avec des glaçons. Il avait un bout de ce caoutchouc. Il l'a mis dans la boisson avec des glaçons, donc une température voisine de 0 degré. Il a ensuite écrasé. Et il a prouvé ainsi que quand on écrasait ce caoutchouc à une température de l'ordre de 0 degré, c'était pas du tout caoutchoutique, ça restait déformé, et donc il n'y avait aucune chance, à ces températures-là, que le joint soit étanche. Donc, ça, il le met dans le rapport, mais il met aussi ceci, c'est une phrase que je trouve très très belle, et qui mériterait d'être davantage connue des ingénieurs. Pour qu'une technologie soit couronnée de succès, la réalité doit prendre le dessus sur les relations publiques, parce qu'on ne peut pas tromper la nature. C'est simple, et tellement vrai. Donc je vous encourage à garder une forme approximative de cette citation de Feynman dans votre tête et éventuellement à vous en servir si un jour vous avez à vous bagarrer pour faire triompher un point de vue technique sur des problèmes de sécurité face à des gens qui vous disent « mais soyez donc un peu manager ». Donc cet accident challenger est tellement caricatural que dans beaucoup, beaucoup d'écoles, c'est considéré comme une étude de cas typique qu'il faut faire à tous les élèves ingénieurs pour leur expliquer les risques qu'ils encourent dans leur métier de se tromper, de se, en quelque sorte, faire violer et, par conséquent, de tuer des concitoyens. En particulier, il faut savoir que la licence professionnelle au Canada impose, c'est dans le programme, c'est imposé, toute licence professionnelle au Canada impose l'étude de cas challenger. On n'a pas la place, malheureusement, pour faire ce genre de choses à l'école des ponts, et c'est vraiment très dommage. On n'est pas obligé de choisir ce genre. Malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples où on peut avoir à peu près les mêmes critiques. Il est 10h35, donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quand même le temps de parler de la troisième, du troisième accident, qui, par beaucoup de côtés, en termes de comportement des ingénieurs, de comportement des hommes, ressemble au précédent. Ce n'est pas du tout le même type d'accident d'un point de vue technique. Donc on va voir l'accident lui-même, on va voir le déroulé. Mais vous allez voir que la NASA, entre 1983 et 2003, s'est passé 20 ans. J'imagine que dans les 10 premières années, la NASA avait vraiment tiré les leçons de l'échec de Challenger. Mais 20 ans après, toutes les règles de comportement saines avaient commencé à s'estomper. Donc cette navette Columbia est une navette qui décolle, qui va travailler à l'Agence spatiale internationale et qui redescend. Et au moment où elle redescend, elle explose pendant la phase de rentrée atmosphérique. Et bien sûr, une navette qui explose dans la phase de rentrée atmosphérique, là, pour le coup, les gens sont morts sur le coup. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, en fait, cet accident, il a été préparé dès le décollage, et peut-être même avant, si vous voulez mon avis. Au moment du décollage, enfin, il faut savoir que le réservoir, le gros réservoir qui sert à propulser la navette, qui a ensuite été jeté, hein, est recouvert d'une mousse isolante, parce que les carburants et comburants à l'intérieur sont à des températures très basses, donc on les protège avec une mousse isolante. Et cette mousse isolante est fragile. Au moment du décollage, il y a un morceau important de la mousse isolante, on verra lequel, qui s'est détaché et qui a, après un certain nombre de kilomètres, de dizaines de kilomètres, hein, ça a dû se détacher probablement à 20 km d'altitude, il me semble, de mémoire. Et donc, cette mousse isolante est venue percuter la navette qui est accrochée sur le réservoir. Je vais vous montrer une navette pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et c'était un morceau suffisamment gros pour casser la protection thermique de l'aile. Donc, c'est l'aile gauche qui a été attaquée, qui a été touchée sur le bord d'attaque. Le bouclier thermique qui protège la navette a donc été endommagé. Ce bouclier thermique, vous le savez, qui protège la navette de la température générée par la rentrée dans l'atmosphère. Ça rentre tellement vite, hein, on est à des vitesses de 20 ou 25 Mach, hein, donc c'est énormément rapide. L'air, à ces vitesses-là, devient un plasma. Un plasma qui est aux alentours de 1500 ou 1400 degrés. D'accord ? Donc, vous avez forcément un très très fort échauffement. Et pour éviter que la navette grille, eh ben, on met une protection thermique. Au cours du retour, donc, comme la protection thermique a été abîmée, la chaleur a pénétré dans l'aile par cette zone endommagée. Ça a rapidement gagné la structure. Vous verrez un tout petit peu comment sont faites les structures de ces navettes. Ça a désintégré, dans un premier temps, une aile, si on peut dire. Et ensuite, bien sûr, dans la foulée, l'engin tout entier. Voilà l'équipage en question. Là aussi, des bonnes bouilles bien sympathiques, de gens manifestement intelligents et courageux. Vous remarquerez que ce qui m'agace, c'est toujours 4 blancs, 1 noir, 2 femmes. Ouais, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, ceci dit, ils étaient tous très compétents. Et là-dedans, il y avait des gens qui avaient manifestement une très belle carrière scientifique devant eux, en particulier une biologiste. C'est triste. Je vous raconte un peu plus en détail. Ça s'est passé 90 secondes après le lancement. C'est un morceau de la mousse d'isolation thermique assez énorme, puisqu'il pèse 800 grammes, qui s'est détaché du réservoir. Voilà à quoi ça correspond, une navette qui démarre. Vous voyez la navette, hein, c'est sur la partie droite. Le grand tuyau orange que vous voyez, c'est le réservoir. Le deuxième tuyau blanc que vous voyez, c'est le propulseur à poudre. Donc, c'est ici que la mousse s'est détachée. D'accord ? Un gros bloc de mousse de 800 grammes. Au moment où ça s'est déplacé, où ça s'est détaché, c'est-à-dire à 90 secondes à peu près après le lancement, la navette allait à 2523 km/h. Donc la mousse aussi à 2523 km/h. Par contre, quand elle se détache, comme elle est peu dense, elle est très rapidement ralentie par les frottements de l'air, même s'il n'y a pas beaucoup d'air. Et donc, au moment où elle s'approche de la navette, au moment où ce bloc de mousse se rapproche de la navette, les calculs montrent qu'il n'était plus qu'à 1644 km/h. Donc, comme la navette, elle, n'avait pas ralenti, le bloc de mousse allait moins vite, le choc s'est produit à 877 km/h. C'est produit ici. D'accord ? Ben, un choc de 800 grammes sur un bord d'attaque à une vitesse de 877 km/h, ça fait du dégât. Alors, si vous aimez les matériaux, on pourra vous parler de ces matériaux dans le département GMM. Le bord d'attaque, c'est constitué en matériaux composites. Alors, pas ceux que vous pratiquez dans Navier, qui sont des composites à base de fibres de carbone et des résines époxy. Là, ici, c'est des fibres de carbone avec une matrice qui est du graphite, parce qu'il faut que ça tienne assez haut en température. D'ailleurs, ce matériau excellent résiste à des efforts de 700 mégapascal, des contraintes de 700 mégapascal, et résiste à des températures de 1750 degrés Celsius. Vous pouvez aller regarder toutes les tables de matériaux que vous voulez, vous en trouverez peu qui résistent à ces températures-là. Mais le choc avec l'isolant a créé un trou de 25 cm de diamètre dans cette protection, dans ce bord d'attaque. C'est un gros trou. D'accord ? Donc voilà la chronologie. À 8h44 minutes et 9 secondes, c'est ça qui est toujours assez extraordinaire dans ces comptes rendus d'accident, c'est que le temps est chiffré à la seconde près. Quoi. Donc la navette entre dans l'atmosphère après avoir fait son vol. Je vous signale que le trou, on sait vaguement qu'il est là depuis pas mal de jours, puisqu'il y a des ingénieurs au sol qui ont vu le choc et qui ont dit « Oh là là, c'est un gros morceau, il faut investiguer pour savoir si la navette n'a pas des problèmes majeurs. » D'accord ? En tout cas, la navette rentre, sans qu'il y ait eu de conviction qui soit faite là-dessus. La friction avec l'air provoque une augmentation de température du mode d'attaque de l'aile jusqu'à 1370 degrés, hein, c'est la température des plasmas générés. Donc si 1370 degrés, il faut un petit peu de temps pour y arriver, c'est 6 minutes après la rentrée. Ensuite, regardez l'ironie de la situation. De 8h48 minutes 39 secondes à 8h51 minutes 14 secondes, il y a 4 capteurs de température dans l'aile gauche qui indiquent que l'aile gauche est en train de monter terriblement en température. Ça aurait dû faire réagir tout le monde. Il se trouve que ces 4 capteurs, comme plus personne ne les regardait depuis le temps qu'on tirait des navettes, ils étaient mis dans une sorte de boîte noire pour analyse après le vol. Donc ces 4 capteurs sont en train de vous dire « vous êtes en train de mourir » et personne ne le sait, ni au sol, ni les astronautes. À 8h52 minutes 16 secondes, ça a pu être identifié avec précision, le trou dans le système de protection thermique de la navette permet au plasma très très chaud, de percer le longeron avant de l'aile gauche, qui est une pièce qui a pas mal de résistance quand même. Ce longeron avant est une pièce structurelle majeure, capable d'encaisser beaucoup de désordres. Mais là, vous voyez, en 8 minutes, c'est percé. Derrière ce longeron, il n'y a plus grand-chose. Hein, il y a un certain nombre de poutres en alliage d'aluminium. J'aime bien l'aluminium. Enfin, l'aluminium, c'est quand même un matériau qui fond à 650 degrés. Si vous attaquez l'aluminium avec un plasma à 1400 degrés, vous venez d'inventer la découpe plasma du métal, quoi, hein ? D'accord ? Donc, ça ne traîne pas. Voilà les recalculs qui ont été faits qui indiquent comment ça s'est passé. Vous voyez où se trouve le trou, ce n'est pas la peine que je vous le montre, et voyez comment le plasma a circulé, au lieu de ne pas rentrer dans l'aile, il est rentré dans l'aile, il a circulé, ça a cassé ce bout-là, le bout que vous voyez calculé. Et au sol, des gens comme vous et moi, qui regardaient en l'air, hein, parce que la navette Columbia, elle a fait une très très longue trajectoire au-dessus des États-Unis avant de vraiment disparaître. Les gens au sol sont surpris parce qu'ils voient des flashs lumineux, un certain nombre de flashs lumineux. Chaque flash lumineux, c'est simplement l'indice que la navette est en train de perdre du matériau et que ce matériau brûle. Il y a donc une désintégration qui commence. À 8h59 minutes et 15 secondes, un quart d'heure après le début de la rentrée, le responsable de communication avec l'équipage informe l'équipage du problème et indique le problème et les conséquences du problème plutôt, en cours d'évaluation. On a une bribe de réponse du pilote. On ne sait pas ce qu'il a voulu dire. Il commence par dire Roger. Ça veut dire « j'ai compris le message ». Puis il commence un mot qui commence par « but » en anglais. Je ne sais pas. Personne n'a réussi à deviner ce qu'il voulait dire. Mais à 9h 0 minutes et 18 secondes, il y avait des amateurs qui filmaient le passage de Columbia, parce que ça se voyait en quelque sorte, et ils enregistrent la désintégration de la navette. C'est donc un vol qui a duré plus d'un quart d'heure. Et je suppose que les astronautes n'ont eu conscience de la situation que très tardivement. Vous vous rappelez à quelle date il a explosé? Il avait bien sûr décollé très longtemps avant. Il avait décollé le 16 janvier à 10h39. Quand un vol démarre, il y a des caméras qui suivent le vol. Il y a des gens qui regardent en direct, mais il y a surtout beaucoup d'ingénieurs qui revisionnent après le lancement ces films-là pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Donc il y a deux caméras qui se trouvent avoir enregistré l'impact de la mousse isolante sur la navette. Donc le lendemain ou le soir, il y a des ingénieurs qui ont dit « Oh là, il y a un gros morceau qui a tapé l'aile de la navette. Il y a peut-être un problème. » Donc c'est les équipes au sol du centre de vol spatial de Marshall qui ont détecté l'incident le 17 janvier à 9h30. Ça veut dire qu'ils y ont passé une partie de la nuit sans doute à regarder ce film-là, à partir des images du décollage. Ils n'étaient pas capables d'évaluer les conséquences parce que les images n'étaient pas de qualité suffisante. Il n'y avait en particulier à l'époque pas d'image haute définition de ce genre de choses. Cependant, comme ils ont vu la masse de l'objet qui percutait, ils se sont dit que c'était sûrement quelque chose d'important. Et donc, ils décident de considérer que cet événement est exceptionnel et mérite un traitement complémentaire. Je vous redis, la navette, à ce moment-là, n'avait pas de problème. Elle était abîmée, mais les astronautes ne craignaient rien. Ils étaient en train de monter vers le vide. Ils allaient à une station spatiale. Si on leur avait dit la navette est hors d'usage, ils seraient restés dans la station, on aurait envoyé notre navette et on aurait été les chercher, hein, simplement. D'accord ? Donc savoir si la navette était en état de revenir, puisque manifestement c'était le bouclier thermique qui avait été touché, était une question majeure. Donc, ils informent deux des plus hauts responsables de la NASA, qui réagissent correctement et qui créent une équipe d'évaluation afin d'analyser les conséquences de l'impact. L'équipe d'évaluation, qui, si les choses s'étaient bien passées, aurait conclu, la navette n'est pas en état de revenir. D'accord ? Alors, il se trouve que les équipes au sol ont fait vraiment du très bon travail, ça a été souligné dans le rapport d'enquête, puisqu'ils ont réussi à déterminer sur la base d'images, et certains d'entre vous ont travaillé avec des films dans le cadre de projets de département, et vous savez que ce n'est pas si simple, hein. Mais eux ont réussi à déterminer avec précision la taille des débris, la vitesse et l'angle d'impact. Donc, une modélisation qui a été faite par un ingénieur de Boeing, d'ailleurs, indiquait clairement que l'aile n'était plus en état de servir. Cette modélisation a été rejetée par des gars qui ont dit « ils sont pessimistes chez Boeing ». Ils ne sont pas tant que ça. Et donc, la conclusion de ce groupe de travail, c'est de dire « il nous faut des images de la navette qui est actuellement en orbite ». Vous avez des gars qui sont capables de sortir de la navette, il suffit qu'ils aillent voir. Vous avez des caméras satellitaires, il suffit qu'on regarde. Ça passe à côté d'un satellite, il suffit de faire une photo. C'est élémentaire, d'une certaine manière. C'est élémentaire. Et là, vous arrivez à une situation critique que vous rencontrerez certainement dans votre vie. Ceux qui peuvent prendre la décision d'aller faire des photos de cette aile abîmée sont des gens qui, par ailleurs, sont débordés. Ils sont en surcharge intellectuelle. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir est-ce que c'est important ou pas. Et là, il est important que ceux qui demandent, parce qu'ils ont compris l'importance du problème, soient convaincants, insistants, qu'ils emmerdent le monde éventuellement, mais qu'ils obtiennent une réponse à une question qui finalement n'était pas si compliquée que ça. Donc, pendant le week-end, qui était un week-end spécial parce que c'est le week-end de la fête de Martin Luther King, donc c'est difficile de trouver du monde, hein, vous savez. Dans un pays où il n'y a finalement pas tant de congés, quand il y a un congé comme ça. Bon, enfin, en tout cas, les ingénieurs ont fait leur boulot, commencent à évaluer les dégâts potentiels. Et là, vous allez voir une deuxième erreur majeure. Bon, la troisième, je ne les compte plus, mais l'une des erreurs était de ne pas avoir fait confiance au modèle de calcul. Quand on n'a pas confiance à un modèle de calcul, c'est un très bon réflexe extrêmement sain, hein, d'ingénieur. Mais on les fait refaire. Et on insiste, et on regarde les hypothèses. Et là, ils ont juste jeté. Deuxième grosse hypothèse, comme c'était un week-end, on va dire, de vacances, contrairement aux procédures qui sont écrites, la NASA est très procédurière, l'équipe d'évaluation n'a pas été dirigée par les responsables du programme de la navette, ni par les responsables de la mission. Ça induit une petite erreur de rien du tout, qui a des conséquences catastrophiques. Donc ils présentent au cours de la réunion, une réunion informelle le 21 janvier 2003, on est à décollage plus 5, c'est-à-dire explosion moins 3, si vous préférez. Et donc, ils font une présentation. Et le responsable de la NASA présent pendant la présentation n'a aucune réaction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Ça veut dire qu'ils étaient préoccupés par autre chose. au lieu de faire leur boulot, ils étaient présents parce qu'il fallait qu'ils soient présents. Et probablement qu'ils ont consulté leur smartphone qui n'existe pas à l'époque d'ailleurs. Enfin, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le verrez ça aussi. D'accord? Des gars dont vous avez besoin d'extraire une décision qui ne vous écoute pas quand vous parlez, il ne faut pas hésiter. Vous levez, vous le prenez par le callback et vous lui parlez dans la figure, de manière à ce qu'il vous entende. Je ne dis pas que ça arrange votre carrière, mais ça arrange votre conscience pour plus tard. Alors, le rapport d'enquête, après l'accident, note que le comportement des responsables fut inhabituel. C'est gentil de dire ça comme ça, d'accord? Moi, j'aurais probablement utilisé des mots plus méchants. En général, quand il y a un incident, il s'implique. Surtout quand l'accident est manifestement problématique. Donc, la seule conclusion à l'issue de cette réunion, c'est les participants, dont les responsables de la NASA, décident, et c'est raisonnable, qu'il est nécessaire d'avoir des prises de photos en orbite de l'aile gauche, et que c'était essentiel pour savoir si c'était grave ou pas. Donc, ça a l'air élémentaire. Il n'y a plus qu'à faire. Comme l'équipe au sol était formée de gens consciencieux, mais pas forcément avec le niveau de responsabilité qui convient et la formation qui convient dans les procédures administratives dont vous souffrerez aussi, eh bien, ils demandent à la mauvaise personne de faire des photos. Au lieu de demander ça à, comment s'appelle, l'équipe chargée des contrôles et du suivi de la mission, dont c'était le boulot, il demande ça à l'équipe d'ingénieurs de la navette. Erreur banale, relativement petite. Sauf que quand on ne s'adresse pas à la bonne personne, il y a deux réactions possibles. La personne qui n'est pas concernée par votre demande peut simplement dire « Non merde, c'est ce qui s'est passé ». Peut éventuellement dire « Attention, c'est sérieux, mais ce n'est pas moi qui fais ça, tu vas t'adresser à quelqu'un d'autre. » D'accord ? Et donc, les responsables de la navette, dont je ne donne pas les noms, ont considéré que cette demande était optionnelle par des gens pinailleurs. Je vous souhaite d'être considéré comme quelqu'un de pinailleur plus tard, si vous arrivez par ce pinaillage à sauver des vies humaines. Donc la demande a été considérée comme non prioritaire et a été annulée. Deuxième erreur du groupe d'ingénieurs de l'équipe d'évaluation, quand on leur a dit « on annule la demande », la réaction saine et normale, c'est de dire « pas question, c'est essentiel, j'insiste, faites-le ». Je pense que vous réagiriez tous comme ça. Ben, aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça réagit. Les gars disent « l'administration nous empêche de faire notre boulot, on va essayer de trouver un moyen détourné pour le faire ». C'est catastrophique. Il y a eu au moins 8 occasions pendant lesquelles ils auraient pu avoir des photos de l'aile et donc annuler le retour de cette navette sur Terre. La première, c'est le responsable de l'équipe d'évaluation demande si l'équipage, et en particulier le chef de l'équipage dans la navette, est au courant qu'il doit inspecter son aile qui a pris un choc. Il demande, en se disant, si c'est bien fait, le responsable de la mission lui a dit, sors et regarde l'aile. Pas de réponse. Ça aussi, vous le vivrez. Des choses graves. On le vit dans toutes les institutions, ça. D'accord? Tu vois à quoi je pense. Vous posez une question précise, urgente, importante. Le gars a autre chose à faire. Quel est votre niveau hiérarchique? Il ne peut pas répondre. D'accord? Autre chose, le centre de contrôle habituellement demande, il y a toujours quelqu'un au moment où le réservoir est détaché de la navette, il y a toujours quelqu'un qui filme ce détachement. C'est à ce moment-là, en quelque sorte, que le bloc de mousse a été arraché. En général, c'est le centre de contrôle qui rappelle aux astronautes qu'ils doivent envoyer le film. Et là, ils ont oublié. Franchement, les gars à l'intérieur de la navette n'avaient vraiment pas de chance. Donc, comme ils n'ont pas réussi à obtenir des films, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils demandent à la défense des États-Unis, qui a des yeux partout, vous savez qu'ils sont capables d'observer des choses extrêmement petites partout, de tourner leurs yeux vers la navette spatiale pour essayer d'avoir une photo, à partir de leur satellite d'observation et d'espionnage, d'avoir une photo de la navette. Aucune action n'a été prise. Ça continue. Un gars téléphone au représentant du département de la défense pour évaluer les moyens nécessaires à la mission. la personne en charge de l'intégration du programme, donc un des grands chefs de cette mission, se rend compte que ce gars-là téléphone à un responsable de la défense, lui dit « qu'est-ce que tu fais là ? Raccroche. » Donc, ça ne va pas au bout. Le gars est renvoyé dans ses buts, pas assez important pour prendre contact avec des gens de ce type-là, et du coup, rien n'est fait. Un autre responsable de la NASA pour la sécurité des vols fait une demande d'image orbitale avec le responsable de la sécurité des vols. Là, ça commence à être précis comme demande. Et ça aurait pu arriver. Le gars aurait pu prendre conscience que si on lui demandait ça, c'était sérieux, il était quand même responsable de la sécurité des vols. Il commence à toucher le cœur du système. Aucune action. Ils discutent d'une demande d'image orbitale avec ce qu'on appelle là-bas un administrateur associé pour la sécurité des vols. Donc il reste dans le même, mais il insiste. Il reste dans le même truc. C'est un ex-astronaute. Donc, en principe, un gars qui a eu la trouille dans sa vie et qui sait que la vie d'un astronaute, ça tient quand même à peu de choses. Ben, cet administrateur, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais aucune action n'a été prise. Pour une fois qu'il pouvait avoir à bosser, il n'a pas bossé. Donc, encore des demandes d'images orbitales. On appelle le directeur de vol pour la phase d'entrée dans l'atmosphère. Le directeur de vol étudie avec l'un de ses collaborateurs l'utilité de cette image orbitale d'un engin qui a pris un choc de 800 grammes à 800 km/h de vitesse. Ils arrivent à deux, incompétents, à la conclusion que c'était inutile. Et ça aussi, vous le verrez. Un groupe de deux décideurs incompétents qui décident à la place d'ingénieurs compétents qui ont travaillé sur le sujet et qui ont des inquiétudes, c'est monnaie courante. D'ailleurs, pas que dans le domaine de l'ingénierie. Et là aussi, il faut réagir. Mais là, c'était trop tard. Encore une demande d'image orbitale avec un autre administrateur associé pour les vols, donc un autre ex-astronaute. Le gars en question écoute, c'est un vieil homme, ex-astronaute, lui, il ne vole plus. Il dit, ok, d'accord, allez, je suis gentil, je transmets votre demande. Et il transmet la demande en disant, priorité faible, ça ne doit pas passer avant les autres activités. Vous faites une demande comme ça, priorité faible, il n'y a pas besoin d'être ingénieur sorti de l'école des ponts pour savoir que ça ne va pas être fait. Bien évidemment, si vous mettez priorité faible, on fait passer ce qui est priorité forte avant. D'accord ? Et donc voilà, 8 occasions pendant lesquelles on aurait pu juste avoir un petit bout de photo de l'aile, conclure qu'un trou de 25 cm dans une protection thermique pour un engin qui rentre, c'est mortel, et il ne serait pas rentré. Alors, pour aggraver, je dirais, la situation de ces gens-là, je ne veux pas trop les juger, parce que j'imagine que leur système de pression était énorme, mais sur les 79 vols qui avaient des caméras embarquées, on a constaté de la perte de mousse isolante sur 80% des vols. C'est énorme. C'est un incident à répétition. C'est une alerte. Il y a un clignotant qui s'allume à chaque vol, en disant « attention, il y a un pépin qui arrive, attention, il y a un pépin qui arrive ». Personne ne dit rien. Parmi ces incidents, il y en a 10% qui portaient justement sur la perte d'un bloc de mousse isolante en provenant du trépied gauche, hein, ce qui a tué Columbia. Ça a commencé le 18 juin 1983, mais là, c'était un peu exceptionnel, parce que c'était une mousse ancienne de ces mousses qui créaient les trous dans la couche d'ozone. Donc la mousse était de qualité. Ensuite, ça a recommencé quelques années après, encore une autre fois, et la NASA commence à considérer, donc c'est au bout de 2 ou 3 fois, que c'est grave. C'est contraire à la sécurité des vols, dit la NASA. Donc, a priori, quand on dit ça, il y a une procédure qui est mise en place pour limiter le phénomène ou le réparer. Mais vous voyez que 2 ans après avoir dit c'est grave, ça se reproduit, aucune action correctrice n'est apportée. Et l'incident de perte de mousse est considéré comme inexpliqué, isolé. C'est quand même la 3e ou 4e fois qu'il voit ça. Hein. On considère que c'est un incident isolé. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils tirent à la mission suivante, parce qu'ils sont sous pression, sans avoir fini de clore, parce que quand il y a un incident dans le domaine aérospatial, on ouvre un dossier et on finit par le fermer quand on a compris, quand on a réparé. En 92, vous voyez, ça s'accélère. Hein. parce que là, ils ont changé de mousse, ils ont pris une mousse plus respectueuse de l'environnement, et ils ont mal choisi. Donc encore un problème de matériaux, avec des gens qui ont dû se précipiter pour choisir, j'imagine, et personne n'est revenu corriger ce défaut de choix. Là, à cet incident, troisième perte importante de mousse isolante sur le trépied gauche, il clôt tout de suite l'incident, comme ça il est clos, avec la mention « c'est un risque toléré ». Vous arriverez sans doute un jour ou l'autre à écrire ce genre de choses, puisque forcément, si vous faites un vrai métier d'ingénieur, vous ferez un métier avec des risques qu'il faudra accepter. Je vous demande juste de réfléchir à ça. Quand vous écrirez « le risque est toléré », assurez-vous d'avoir raison. On n'écrit pas « un risque est toléré » juste pour s'éviter de la paperasse administrative et s'éviter des dépenses. On le vérifie. D'accord ? Là, vous comprenez bien. Tout de suite après avoir dit « c'est grave », ils disent « le risque est toléré », il ne s'est rien passé entre les deux, ça veut dire qu'il y a un fainéant quelconque ou un argentier quelconque qui a dit « arrêtez, je ne vais pas mettre des sous là-dedans ». D'accord ? C'est grave. En 92, vous voyez, ça se répète, la mousse est de très mauvaise qualité. En 94, ça recommence. Et ils finissent par comprendre en 94, parce qu'ils y travaillent quand même un peu, que la cause de l'émiettement de cette mousse, c'est lié à un changement de formule afin de minimiser l'usage des CFC que vous ne connaissez probablement pas, mais que vos anciens ont connu, les CFC. C'était le gaz qui servait à faire les mousses autrefois. Et ça nous a permis d'avoir un joli trou dans la couche d'ozone. Dès qu'on a arrêté d'utiliser les CFC, le trou s'est rebouché. Miracle. Sixième cas de perte de mousse. Et là, ils en sont arrivés à l'extrême. Ils ont perdu un gros morceau de mousse. Ils ne l'ont même pas déclaré. Même pas d'incident de vol. Vous le verrez, cette dégradation progressive du sentiment de perception du risque, en quelque sorte. On s'habitue à quelque chose qui est grave. Et on finit par considérer que c'est normal. Et donc, le 16 janvier 2003, c'est le décollage de la navette Columbia. Septième cas connu de perte de mousse isolante sur le trépied gauche, avec des ingénieurs qui autrefois se disaient « Oh, si je perds de la mousse, je risque de perdre ma protection thermique. » Des ingénieurs qui là se disent « Ouais, on va peut-être aller voir, non, on ne va pas aller voir. » Et conclusion, destruction de la navette Columbia lors de la rentrée dans l'atmosphère. Je vous laisse lire ça, mais vous avez compris. C'est ce qui a été qualifié de normalisation de la déviance. Il faut se battre dès que vous avez des systèmes qui se reproduisent, des systèmes dangereux qui se reproduisent. Prenons l'exemple de l'énergie nucléaire. Un pépin qui se reproduit plusieurs fois. Ce n'est pas parce qu'il s'est reproduit plusieurs fois sans tuer personne qu'il est sans importance. Il faut absolument garder l'éveil, sentiment d'inquiétude. Le sentiment d'inquiétude, c'est l'une des qualités majeures des ingénieurs. Les ingénieurs font des objets qui peuvent être dangereux. Vous allez travailler, pour certains d'entre vous, sur des objets qu'on ne connaît pas, complètement révolutionnaires, au niveau de l'énergie, au niveau des transports. Pensez que ces objets-là, ils sont peut-être dangereux. Vous ne savez pas pourquoi. Restez en éveil, aux aguets. Donc au départ, on considère que l'incident doit être résolu avant la mission suivante, avant la réalisation suivante. Après, on les considère un peu comme secondaires. Après tout, ça s'est produit plusieurs fois, il n'y a jamais eu de mort. Et puis elles sont devenues tolérées, à la fin, carrément même plus mentionnées. Elles ne donnent même plus lieu à des rapports d'incidents. Cette normalisation de la déviance que j'ai vue plusieurs fois dans ma vie professionnelle, quand même, déjà. Pas avec des risques aussi majeurs sur la vie des gens, mais je l'ai quand même vue. Petit à petit, un vrai risque est considéré comme quelque chose de rien du tout, alors qu'il y a potentiellement derrière un accident grave ou une catastrophe. Voilà. Et le problème, c'est qu'encore une fois, les ingénieurs n'étaient pas suffisamment formés au proba. Parce qu'une analyse probabiliste des conséquences d'un choc de mousse sur une aile montrait assez clairement qu'il y avait à peu près une chance sur 10 pour qu'il y ait une conséquence majeure derrière. Une chance sur 10, c'est beaucoup. Une chance sur 100, c'est beaucoup aussi. D'accord ? Moi, je veux bien qu'on dise que les gens qui prennent comme carrière la carrière d'astronaute savent qu'ils prennent des risques. Oui, sans doute. Mais il ne faut pas en rajouter. Ils savent qu'ils prennent des risques, mais c'est aussi des gens qui ont une confiance absolue dans les ingénieurs qui leur mettent des engins entre les mains. La responsabilité morale est énorme. Et vous ne pouvez pas simplement dire, les gars savent qu'ils prennent des risques. S'ils meurent, ils meurent.
Si vous le souhaitez, je peux vous dire deux mots de ce que c'est l'expertise pour l'autorité de sûreté nucléaire, en vous donnant deux exemples intéressants, parce qu'ils sont tous les deux récents, ils concernent tous les deux l'EPR de Flamanville, et les conclusions du groupe d'experts sont d'une certaine manière différentes. D'abord, qu'est-ce que c'est un expert de l'ASN ?
Qu'est-ce que c'est un expert de l'ASN ? Un expert de l'ASN, c'est quelqu'un qui étudie les dossiers qui lui sont préparés par l'IRSN, l'Institut de Recherche et de Sécurité Nucléaire, qui est un institut extrêmement critique sur le nucléaire. C'est très bien. Il étudie les dossiers, il étudie le dossier fait par l'exploitant ou le constructeur, il compare, il a des compétences sur différents sujets. Pour ce qui me concerne, c'est essentiellement des compétences sur la mécanique et les engins sous pression. Mais il y a plein de groupes d'experts. Chaque groupe d'experts, c'est 50 personnes. Et il y a un point très important, c'est que ces gens-là sont bénévoles. Ils font ça pour le service de la nation. Bénévoles, ça veut dire qu'ils sont à la solde de personne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Mais ils ne sont pas influençables par des intérêts financiers ou des intérêts politiques. Et donc, ils étudient en toute objectivité les questions qui leur sont posées. Ça existe pour la sécurité nucléaire, mais ça existe pour d'autres domaines aussi. Et c'est une des belles inventions, en quelque sorte, de notre nation, d'avoir créé ce genre d'agences, qui sont des agences de fonctionnaires inamovibles. C'est-à-dire que l'agence est totalement indépendante du gouvernement et des administrations. Ce qui lui donne la force de dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Ce dont elle ne se prive pas. Donc, je vous donne deux illustrations sur les histoires récentes. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a quelques mois, on s'est rendu compte que le couvercle qui avait été mis sur la cuve du futur EPR de Flamanville était non conforme, parce que dans le procédé de coulage du métal qui avait été mal fait par notre seule entreprise de fonderie de grosses pièces en France, il y avait des précipitations de carbone. Et des précipitations de carbone qui fragilisent le métal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Couvercle non conforme. L'ASN aurait pu avoir comme position, c'est non conforme, vous ne le montez pas, vous en refaites un. Il faut savoir que refaire un couvercle, c'est 7 ans de boulot. Ça veut dire que l'EPR est retardé de 7 ans. L'EPN, qui a le sens de l'intérêt collectif, se dit, c'est bien pour la sécurité, c'est mauvais pour les Français. Puisqu'en l'occurrence, quand l'EPR ouvrira, on ferme un certain nombre de choses, et en particulier, on ferme Fessenheim. Donc, ils demandent à l'exploitant EDF et au fabricant, qui à l'époque s'appelait Areva, un certain nombre d'éléments pour convaincre s'ils pensent que le couvercle en question n'est pas dangereux. Ce que l'exploitant et le producteur font, ils prennent un autre couvercle qui était prévu pour la centrale EPR de Hinkley Point, réalisé de la même manière, avec le même type de dépôt. Ils découpent tout ça en petits morceaux. Ils font des essais de rupture qu'on appelle des essais de résilience, que vous apprendrez à faire dans le département GMM si vous y venez. Et c'est extrêmement aléatoire et qui permettent de tracer une courbe en dessous de tous les essais en disant c'est la résistance minimum. Quand vous mettez un peu de carbone en trop dans l'acier, la résistance à la fissuration décroît. Et ils font des calculs à partir de cette courbe très inférieure à celle du règlement. Et ils aboutissent à la conclusion que ça peut tenir sans problème, malgré les phénomènes de radiation neutronique qui fragilisent encore plus le métal, pendant 60 ans de la durée de vie de la centrale. Le boulot des experts, ça a été de se pencher sur tout ça. Se pencher sur la bonne correspondance entre le couvercle de cuve pour Hinkley Point qui a été découpé en petites éprouvettes et celui qui était monté sur le PR de Flamanville. Vérifier que les essais avaient été bien faits, qu'il n'y avait pas de tricherie dans tout ça. Vérifier que les modélisations avaient été bien faites, qu'il n'y avait pas de tricherie. Et on est arrivé tous collectivement à la conclusion que ce que disait EDF, c'est-à-dire que le couvercle, malgré son mauvais état, pouvait tenir 60 ans, était correct. On a fait notre boulot d'experts, on va dire mécaniciens, c'était le groupe permanent d'experts sur les engins sous pression nucléaire qui travaillait. On a dit à l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui est écrit dans le rapport est juste, les calculs, on les a vérifiés. Effectivement, le couvercle tel qu'il est tiendra 60 ans. L'ASN dit, OK, j'autorise que ce couvercle soit mis en place 7 ans. Il faut 7 ans pour en sortir un autre. Areva, vous m'en fabriquez un autre, dans de bonnes conditions, avec des techniques à la pointe de l'art, parce que malheureusement, Areva a perdu son métier. Il ne sait plus les faire. Et si vous n'êtes pas capable de les faire, on les achète aux Japonais qui, eux, savent les faire. Donc voilà. La conclusion, ça a été ça. Le groupe d'experts a jugé, en son âme et conscience, avec un travail extrêmement sérieux, que le couvercle tenait. L'ASN a fait son boulot d'autorité, c'est-à-dire de police, en disant, vous vous foutez de nous en mettant des choses non conformes sur vos cuves, donc on vous sanctionne à moitié, vous refaites le couvercle, et on vous autorise quand même à le mettre l'ancien, enfin le mauvais couvercle en quelque sorte sur la cuve, parce que compte tenu de ce qu'ont dit les experts, on sait que ça tiendra au moins 7 ans, puisque les experts ont dit que ça tiendrait 60 ans. Deuxième problème plus récent, vous en avez entendu parler, parce que là pour le coup c'est vraiment très récent, c'est les problèmes des souderies, des tuyauteries. Problème de souderie de tuyauterie, plus personne ne s'est soudé en France, ou plus exactement, je vais être plus clair, il y a une entreprise qui s'est bien soudée et qui est très chère. Donc pour les pièces extrêmement critiques, on utilise cette entreprise. Dès que la pièce est un tout petit peu moins critique, on prend des gens dont le niveau de formation est insuffisant. Au passage, la DRH d'EDF, qui s'est affolée il y a quelques années en disant « mais on va manquer d'ingénieurs, on va manquer d'ingénieurs », est assez nulle, permettez-moi de le dire. C'est enregistré, donc ça tombe bien. Parce qu'elle aurait dû analyser que leur vrai problème, c'était d'augmenter le nombre de soudeurs. Vous savez, un soudeur en France est payé beaucoup plus qu'un ingénieur. C'est une formation extrêmement longue. Quand je parle d'un soudeur, ce n'est pas celui qui vous soude votre pare-choc, hein, qui est en plastique d'ailleurs, il faut faire attention, mais c'est celui qui soude de grosses épaisseurs d'acier, sans y laisser de trous, sans y laisser de fissures. C'est une formation très compliquée, il y a énormément de diplômes, et ces gens-là sont très bien payés. Mais comme ils sont bien payés, ils sont chers, et donc ils ne sont pas tellement employés. Conclusion, on n'en forme pas beaucoup, et c'est une catastrophe en ce moment. Bien, donc, ils ont utilisé une entreprise avec des gens un peu moins compétents pour ces soudures, qui se retrouvent, pour 8 d'entre elles, de mémoire, avec des défauts. Défaut dans une soudure, ça veut dire que vous avez l'équivalent d'une fissure dans un tuyau tout neuf que vous venez de mettre en place. Vous montez en pression, vous descendez, phénomène de fatigue, la fissure avance, vous risquez de péter. Donc l'ASN nous demande un avis, on lit le rapport de l'IRSN qui est extrêmement bien fait, c'est des scientifiques de très grande qualité à l'IRSN, et on regarde les rapports de l'exploitant et des fabricants. Et moi j'ai été choqué par une des remarques des exploitants. Parce que l'idée c'est, est-ce qu'on répare, autrement dit, est-ce qu'on coupe et est-ce qu'on refait des soudures, ou est-ce qu'on accepte de les garder abîmées? L'une des raisons qui m'a paru un peu choquante, c'est de dire « mais c'est très difficile d'accès pour réparer ». Ça a suffi à emporter ma conviction. Mais de fait, dans la preuve que pensaient apporter les gens qui défendaient le dossier qu'on pouvait y aller comme ça, il y avait quand même énormément de faiblesses, en particulier de faiblesses au niveau de l'ingénierie des incertitudes. On arrive à avoir les défauts, on arrive à avoir des modèles qui prédisent un peu comment ça avance. Mais en supposant que ça avance, il va falloir aller réparer des systèmes qui seront radioactifs. Donc, on a été nombreux, on s'est tous décidés sur des raisons un peu différentes les unes des autres, mais nous avons recommandé à l'ASN, malgré le retard que ça allait entraîner, de couper et de refaire ses soudures avec des gens qui savent le faire. Schématiquement, le retard pour l'EPR de Flamanville, c'est 2 ans. Hein. Bon, je pense que vous avez vu dans la presse... Moi, là, l'argent ne m'intéresse pas, mais je pense que vous avez vu dans la presse ce que ça coûte chaque jour de retard d'un EPR comme ceci. Donc voilà notre conclusion, et l'ASN a suivi notre avis. Donc un expert indépendant doit se faire une opinion, et il se trouve que dans ces groupes-là, on est dans des situations où, compte tenu du fait qu'on est bénévole, compte tenu du fait qu'on est expert véritablement de nos sujets, quand on parle, si on arrive à parler collectivement, c'est très important. Il ne faut pas que dans le groupe, il y ait 2-3 personnes qui disent « mais je ne suis pas d'accord ». Si on arrive à parler de manière unanime, on impose à des monstres de puissance une conduite qui est une conduite qui convient. Voilà. Et ça, la seule chose que je disais à Aymeric tout à l'heure, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on recrute essentiellement des gens âgés pour faire ce boulot-là, alors que c'est un moyen de formation sur ce qu'est un ingénieur, quelles sont ses responsabilités, qui est phénoménal. S'ils arrivaient à y glisser un peu plus de gens d'une quarantaine d'années, voire même plus jeunes, je ne dis pas qu'il faut que ça, parce qu'il faut aussi de l'expérience pour avoir de l'expertise. Mais ça serait très bien. En tout cas, il y a une chose quand même qui est positive, c'est que dans l'ensemble de ces gens qui expertisent, il y en a beaucoup qui enseignent et qui transmettent. Donc, ce qu'on apprend dans le cadre de ces groupes d'experts, on a l'occasion de vous le transmettre. Alors, vous en percevez peut-être juste un petit peu, hein, mais c'est déjà pas mal, parce que ça, ça vous sert pour réfléchir ensuite. Je répète ma recommandation, chaque fois qu'il y a un incident ou un accident grave qui est documenté, intéressez-vous-y. C'est votre responsabilité d'ingénieur de voir comment se comportent les ingénieurs et de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, peut-être que ça vous a donné envie de poser des questions.